Bon après-midi à tous. Je rends grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il me donne à nouveau de vous exposer sa parole dans notre série sur le décalogue, les 10 commandements. La dernière fois, nous avons vu, vous vous rappellerez, que l'Éternel est zélé pour sa gloire, son adoration et le service qui lui est dû, et qu'il est le seul maître de cérémonie. C'est ce que ça signifie lorsqu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est une sainte jalousie. Il est le seul qui peut décider des conditions selon lesquelles sa créature peut s'approcher de lui pour l'adorer et le servir. Car après la chute, c'est lui qui initie, par sa grâce et sa miséricorde, la relation avec sa créature, par alliance. Nous avons aussi vu comment bien comprendre les sanctions accompagnant le deuxième commandement, interdisant de faire des idoles, les adorer et les servir. Lorsqu'une génération choisit la voie de désobéissance, le jugement de l'Éternel, juge, législateur et roi, tombe sur cette génération, mais aussi sur la deuxième, troisième et quatrième génération généralement, car celles-ci ont tendance à se perfectionner dans l'exercice du mal et la pratique de la désobéissance qu'ils ont appris de leurs parents. Un détail contextuel assez important que je ne vous avais pas mentionné à ce sujet est le fait qu'à l'époque de Moïse, et même jusqu'à la Première Guerre mondiale, du moins en Amérique du Nord, il n'existait pas d'obligation gouvernementale de garder les enfants à l'école presque jusqu'à l'âge adulte. Les enfants étaient très vite familiarisés avec la réalité de la vie adulte, des responsabilités, et d'avoir à travailler dans les entreprises familiales depuis un très jeune âge. Par conséquent, c'était pratiquement la norme que les jeunes adultes se marient et commencent à avoir des enfants alors qu'ils entraient à peine dans la vingtaine. Vous pouvez donc imaginer, si un couple se mariait à 20 ans et avait un enfant la même année, et que 20 ans plus tard, cet enfant faisait de même, et ainsi de suite, à 40 ans, ce couple initial serait grand-parent, à 60 ans, arrière-grand-parent, à 80 ans, arrière-arrière-grand-parent, à 100 ans, trois fois arrière-grand-parent. Et rappelons-nous que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Bon, vous comprenez le principe, mais tout ça pour dire que des familles multigénérationnelles étaient assez communes à cette époque. Donc, il était encore plus facile de marcher dans les voies de nos prédécesseurs familiaux, si nous pouvions voir leurs témoignages de nos yeux vivants. Donc, fin de cette petite parenthèse. Ensuite, toujours la fois dernière, nous avons vu aussi la miséricorde singulièrement divine de la sanction positive, où l'on entrevoit le cœur de l'Évangile de grâce de l'Éternel, le Rédempteur. Une grâce n'étant accessible que par la repentance et la foi en Jésus seul. Aujourd'hui, nos regards et toute notre attention se porteront sur le troisième commandement, en Exode 20, chapitre 7. Donc, ouvrons notre Bible et lisons. Exode, chapitre 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Amen. Cette année, en 2025, l'Église unie du Canada célèbre son 100e anniversaire. Il s'agit de la deuxième plus grande Église professant le christianisme au Canada, après l'Église catholique. Cette Église, de dénomination protestante, a été fondée en 1925, en regroupant des églises méthodistes, congrégationalistes et une grande portion de l'Église presbytérienne du Canada. Ces deux dernières catégories étant donc techniquement calvinistes, réformées. Selon les statistiques les plus récentes, 1,1 million de Canadiens, soit 3,3% de la population du pays, disent appartenir à l'Église unie du Canada. faisant d'elle la plus importante appartenance protestante au pays. Elle est composée de 2451 assemblées dans toutes les provinces à travers le pays. Elle est composée de 325 315 membres dans 243 689 foyers desservis par une assemblée locale. 118 878 personnes en moyenne sont présentes à leur culte du dimanche. Pour l'année 2023, à la largeur du pays, leurs assemblées ont reçu 397 164 202 dollars en dîmes et en offrandes et près de 18 millions de dollars pour leurs activités missionnaires. L'Église unie du Canada affirme être inclusive et libérale, ne s'opposant à aucune identification du genre ou orientation sexuelle pour servir dans le ministère. Cette Église se fait gardienne du féminisme et de l'inclusion LGBTQ+. Se proclamant être ouverte, elle accepte les mariages interreligieux et travaille avec des organisations humanistes de développement, de défense de droits humains et de protection de l'environnement. Êtes-vous choqué qu'il y a des églises protestantes et même réformées comme ça au Canada? Eh bien, puisqu'au mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil, attachez vos tucs, bien-aimés, parce qu'il existe de grandes dénominations protestantes qui partagent exactement les mêmes croyances ou suivant une trajectoire qui les amènera à la même destination, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Océanie. La triste réalité est que l'Occident ne possède pas le monopole de ce genre de décadence. Bref, nous verrons un peu plus tard ce que l'Éternel, le Dieu de la Bible, a à dire à toutes ces églises. Les faibles créatures partageant le penchant originel d'Adam d'être comme Dieu que nous sommes ont généralement tendance à minimiser, à restreindre la signification et les sphères d'application de la parole de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain, dit le troisième commandement. Pour comprendre ce que Dieu communiquait aux Israélites par cela, il faut que nous regardions ailleurs dans le livre de la loi pour voir ce que Dieu précise à ce sujet. Prenons Exode 22, 28 par exemple. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Lévitique 19, 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 24, 15. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Le troisième commandement est souvent restreint à ne pas blasphémer le nom de Dieu, ce qui est communément connu au Québec sous la forme d'utiliser le nom de Dieu, de Christ, d'objets, de concepts ou de thèmes retrouvés dans la Bible pour exprimer de la vulgarité, de la grossièreté, des insultes ou pour exprimer des interjections négatives et parfois même positives. En langage plus familier, au Québec, on appelle ça « sacré ». Et c'est vrai que de telles pratiques blasphématoires sont interdites par le troisième commandement et même passibles de mort dans certains cas, selon la parole. Mais l'interdiction du troisième commandement ne se limite pas seulement à ça. Le mot hébreu qui est traduit par « vain » est « shav ». Et il peut avoir pour signification, en incluant la racine du mot, avec « hâte »,« dévasté », »,« ravagé », »,« détruire », »,« ruiner », »,« méchant », »,« mauvais », »,« malicieux », »,« idolâtre », »,« inutile » et aussi « faux ». Ce n'est que pour vous donner un aperçu de l'étendue des implications du commandement. Bien évidemment, on ne peut pas atteindre ou faire de mal à Dieu lui-même. Mais on peut porter atteinte à l'ordre qu'il a établi dans la famille, dans l'Église et dans la société, en propageant le mal et le péché. Et donc, nous allons commencer par regarder ce qu'il en est du troisième commandement en ce qui concerne la société. Ce même mot hébreu, « shav », qui est traduit par « vin », est aussi utilisé en Exode 23, verset 1. « Tu ne répandras point de faux, shav, bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » En Deutéronome 5, 20, « Tu ne porteras point de faux, shav, témoignage contre ton prochain. » En Ésaïe 59, verset 4, « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, shav. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » En Osée 10, verset 4, « Ils prononcent des paroles vaines, des serments faux, shav. Lorsqu'ils concluent une alliance, aussi le châtiment germera, comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. » Il y a donc une dimension de justice au fait d'utiliser le nom de Dieu, à savoir lorsqu'on prête serment dans un contexte juridique, lorsqu'on est appelé à témoigner à la cour, ou dans un contexte d'entrée en fonction, lorsqu'on est appelé à devenir un magistrat, un juge ou autre autorité au service de Dieu et de la population. Il existe également d'autres cas exceptionnels où il est légitime de prêter serment, selon la parole, pour mettre fin à des querelles de très grande ampleur, par exemple. Dans tous ces contextes légitimes pour prêter serment, l'homme n'a pas d'autre choix que d'appeler à témoin le seul être qui est plus grand que tout homme et que toute la création. Celui qui est la vérité, source de vérité, qui sait tout ce qui est caché et qui seul a la puissance de sonder, de révéler et de punir tout ce qui est caché. L'Éternel des armées. Jurer devant Dieu ou au nom de Dieu est un acte solennel et même alliantiel. Car en le faisant, on accepte que le jugement, que la punition de Dieu nous frappe si on ment. Lorsqu'on prête serment, on affirme notre intention de respecter l'ordre et la justice du Dieu au nom duquel on jure. Par conséquent, lorsqu'on jure pour mentir, on prend le nom de Dieu en vain. Et Dieu ne faillira pas à nous punir, nous avertit le troisième commandement. Autrement dit, on invoque la malédiction de la loi parole de Dieu sur notre propre vie lorsqu'on prête faussement serment. Le concept de prêter serment était fondamental à l'ordre établi par Dieu pour la société d'Israël. Et de prendre cela à la légère était une menace non seulement à la pureté du peuple, mais aussi au bon fonctionnement de leur nation. Donc on voit cet aspect sociologique. Un faux serment est une offense extrêmement sérieuse, même plus sérieuse qu'un vol ou qu'un meurtre à certains égards. Pardon ? Plus sérieuse qu'un vol ou qu'un meurtre ? Comment ça ? Eh bien, dans le cas d'un vol, la propriété d'un seul individu ou d'un groupe d'individus est dérobée. Dans le cas d'un meurtre, la vie d'un seul individu ou d'un groupe d'individus est enlevée. Mais dans le cas d'un faux serment, c'est la vie de toute la société qui est menacée. Pourquoi ? Parce que la pratique de faux serment va automatiquement courir le risque de devenir la norme à travers toute la nation, particulièrement lorsque les faux serments ne sont pas justement punis. Ce n'est pas sans raison que l'Éternel exigeait que le faux témoin cherchant à faire du tort à son prochain soit condamné de la même sentence qu'il voulut infliger à l'accusé innocent. En Deutéronome 19, 16 à 19. Au passage, remarquez que le troisième commandement est donc intimement lié au neuvième commandement qui interdit de porter un faux témoignage contre son prochain. Mais qu'en est-il pour nous ? Comment est-ce que cela s'applique à nous, à notre société ? Eh bien, c'est assez simple. La vie de notre société aussi est mise en péril par ce péché. La justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel, nous dit le verset 2 du psaume 96. Et nous avons même entendu cette expression, cette paire de la justice et de l'équité dans la convocation, le psaume que nous avons lu pour la convocation. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous ordonne avant toute chose de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ici-bas que nous, en tant que chrétiens fidèles, devons combattre pour que la justice et la volonté de Dieu soient faites là où il nous a placés, avec les moyens, les dons, les intérêts que Dieu nous a donnés, selon l'appel particulier qu'il a pour chacun de nous. Et nous pouvons seulement livrer ce combat en étant remplis par son esprit et guidés par sa parole. Recherchez donc sa volonté pour votre propre vie dans la prière, bien-aimé. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples, nous dit Proverbe 14, 34. Dans le rôle prophétique qui a été confié à l'Église par Christ, comme les prophètes qui ont été envoyés pour intenter des procès d'alliance à la nation d'Israël pour leur rébellion, nous devons et effectivement nous intentons un procès prophétique contre notre nation qui prend aujourd'hui le nom de Dieu en vain. Notre nation qui autrefois professait le Dieu de la Bible et qui, à ce jour, reconnaît la suprématie de Dieu et la primauté du droit en préambule à la Charte canadienne des droits et libertés. Aux magistrats du Canada qui prêtent faussement serment sur la Bible ou qui méprisent carrément l'Éternel en ne jurant pas en son nom. Aux magistrats du Canada qui prononcent régulièrement des faux verdicts à différents paliers, aux différents paliers de justice de notre nation. Dieu dit qu'il ne vous est pas permis d'agir ainsi. Respectez l'ordre et la justice de l'Éternel pour sa création. Dieu vous identifie comme étant des méchants et il vous dit que la nation sera renversée à cause de vos lèvres menteuses. Dieu vous dit que vous êtes sous sa malédiction, qu'il ne vous laissera pas impuni. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit, nous disent des proverbes. Premier ministre, ministre, sénateur, député, juge et tout dignitaire fédéraux, provinciaux et municipaux du Canada, conduisez-vous avec sagesse et recevez instruction. Jésus-Christ est le roi des rois. Lisez le psaume 2. Croyez-vous qu'il a oublié de demander à son Père l'héritage des nations? Il possède toutes les nations. Servez l'Éternel avec crainte. De même pour vous tous, habitants du Canada, petits et grands, aînés, adultes et enfants, ne prenez point le nom de l'Éternel en vain si vous aimez notre nation, car il ne nous laissera pas impunis si vous prenez son nom en vain. Ainsi, pour clore cette section par rapport à la nation et la société, une formulation positive du troisième commandement affirmerait ceci. Tu prendras le nom de l'Éternel Dieu avec justice et en vérité, car l'Éternel honore tous ceux qui prennent son nom avec justice et en vérité. Pour continuer, regardons ce qu'il en est pour le troisième commandement en ce qui concerne l'Église. Le troisième commandement a aussi son mot à dire dans la sphère cérémonielle, dans la dimension de l'adoration cultuelle et aux gens qu'il met spécialement à part pour son service. Deux passages bannières, si on peut dire ainsi, par rapport à cette dimension, se retrouvent en Lévitique 21, verset 6, qui se lit comme suit. Ils, en parlant des sacrificateurs, seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Et Lévitique 22, 31 à 33 qui dit « Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. » Les sacrificateurs de l'ancienne alliance devaient suivre à la lettre toutes les instructions de l'Éternel. Ils étaient particulièrement mis à part, sanctifiés par Dieu pour représenter le peuple d'Israël devant l'Éternel et offrir les sacrifices pour le peuple à l'Éternel. Ils devaient donc être saints non seulement par leur obéissance à toutes les injonctions techniques et logistiques de Dieu par rapport au sacrifice, mais aussi par une obéissance qui serait un modèle à suivre pour le peuple, moralement parlant, en observant tous les commandements de Dieu et en les mettant en pratique. Les sacrificateurs devaient être sans reproche dans leur conduite, craindre l'Éternel et être entièrement consacrés à son service. En Lévitique 21, verset 6, il nous est dit qu'ils seront saints pour leur Dieu et qu'ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Or, Lévitique 19, 12 affirme précédemment, nous l'avons mentionné, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Le mot hébreu pour profaner signifie « souiller, polluer, mais aussi violer, percer, briser, selon le contexte. Ainsi, de jurer faussement, comme nous l'avons vu tantôt, vient violer l'ordre de Dieu dans une société. Mais plus grave encore, jurer faussement salit le nom de Dieu devant les hommes. Ainsi en est-il des sacrificateurs qui ne sont pas saints dans leur conduite. Ils portent le nom de Dieu, étant des représentants de Dieu, et ils salissent le nom de Dieu, en portant atteinte à sa réputation. Par leur conduite, ils profanent le nom de Dieu avec leurs actions. Ils mentent sur qui Dieu est. C'est une autre manière de prendre le nom de Dieu en vain. Vous vous souviendrez probablement en 1 Samuel 2 à 4 des fils d'Élie, Ophni et Phiné, des sacrificateurs de l'Éternel que la parole décrit comme étant des hommes pervers, qui ne connaissaient point l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel et ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Leur comportement était abominable. La parole dit qu'ils se sont rendus coupables d'un très grand péché face aux offrandes de l'Éternel. Mais leur père, Élie, les a réprimandés d'une main molle, honorant davantage ses fils que Dieu. Donc, l'Éternel, fidèle à lui-même et à sa parole, premièrement, a fait mourir les deux fils pervers d'Élie lors d'une bataille contre les Philistins. Deuxièmement, Élie est tombé mort, la nuque brisée, en apprenant que l'arche de l'Alliance avait été prise au combat. Et troisièmement, la femme d'un des fils d'Élie s'est retrouvée à accoucher spontanément au précipice de la mort lorsqu'elle a appris toutes ces terribles nouvelles. Non, Dieu n'a pas laissé impunis ces sacrificateurs qui ont pris son nom en vain, en le profanant par leur conduite. Et remarquez que toute la nation en a souffert avec l'arche de l'Alliance dérobée et la gloire de Dieu qui s'est retirée. Qu'en est-il pour nous, à notre époque, dans notre contexte? Nous, l'Église du Christ, les chrétiens de la Trinité, les vrais chrétiens partout à travers le pays, à travers le monde, sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis, nous dit la Bible. À quelle fin? À quel but? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. Et non les vices de Satan. Qu'est-ce que le Jésus-Christ de la Bible dit à une église comme l'Église unie du Canada et toutes les autres églises qui lui sont semblables, prétendant que Dieu parle encore de manière à changer la parole qu'il a révélée une fois pour toutes aux saints? Il leur répond ainsi: vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition humaniste et prétendument progressiste que vous copiez directement de l'agenda perverti de l'État. Hypocrite, vous honorez des lèvres, vous honorez Dieu des lèvres avec les credos et confessions de foi historiques sur vos sites web, mais vos cœurs sont éloignés de lui. C'est en vain que vous honorez Dieu en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et je cite, dans le cas de l'Église unie du Canada, une vie d'Église qui se fonde sur une lecture communautaire de la Bible à la lumière des sciences humaines et du contexte de notre monde d'aujourd'hui. Comment faut-il se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité? Il faut enseigner tout ce que Jésus a commandé et abordé les sciences humaines et notre contexte d'aujourd'hui à la lumière de la parole de vérité et non l'inverse. Jésus-Christ dit aux églises apostates, aux fausses églises qui prennent le nom de Dieu en vain, en encourageant toutes sortes d'ouvriers d'immoralité à continuer de vivre dans le péché: il vaudrait mieux pour vous qu'on vous attache au cou une pierre de meule que font tourner les ânes et qu'on vous balance au fond de la mer, que vous causiez la chute des petits et des faibles qui croient en moi comme vous le faites. Malheur à vous, dit-il. Vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Vous y invitez des voleurs de la gloire de Dieu qui veulent tous être comme Dieu et déterminer le bien et le mal par eux-mêmes, vivant comme ils veulent et utilisant le nom de Dieu pour tromper et amasser des millions et des millions de dollars en dîmes et en offrandes au nom de Dieu, non pas pour l'avancement du royaume de son admirable lumière, mais pour l'avancement du royaume des ténèbres. Vous remplissez le mandat missionnaire de Satan plutôt que celui de Jésus-Christ, en gardant de nombreuses âmes captives au péché et en livrant toutes ces précieuses âmes à la perdition. Et Dieu dit aux églises méchantes: quoi donc? Vous énumérez mes lois et vous avez mon alliance à la bouche. Vous qui détestez l'instruction et qui rejetez mes paroles, vous livrez votre bouche au mal et votre langue est un tissu de tromperie. Voilà ce que vous avez fait et je me suis tu. Vous vous êtes imaginé que je vous ressemblais, mais je vais vous reprendre et tout mettre sous vos yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Non, Dieu ne vous laissera pas impuni, Église perverse, qui prenez son nom en vain. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Quant à nous, bien-aimés, veillons sur notre marche d'Église et notre enseignement, car en agissant ainsi, nous assurerons notre salut et celui de ceux qui nous écoutent, nous dit l'Éternel, notre Dieu. En continuité avec le premier et le second commandement, implicitement, dans le troisième commandement, l'Éternel nous dit: tout comme tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tout comme tu ne te feras point d'idole, tu ne prendras pas le nom d'autre Dieu ou d'autre autorité non plus. Autrement dit, en formulation positive, si tu professes être une église du Dieu vivant, tu ne jureras que par moi. Tu ne vivras que pour moi. Tu ne vivras que par moi. Examinons maintenant la pertinence du troisième commandement pour la famille. Pour comprendre l'importance de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain quant à ses répercussions dans le cadre familial, pour nous qui sommes chrétiens, j'aimerais que nous lisions quelques passages spécifiques des Saintes Écritures. D'abord, Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 20, versets 2 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. » Deutéronome 18, 10. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car les nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et enfin, en Deutéronome 6, 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les passages dans Lévitique nous montrent sans ambiguïté ce que Dieu a déclaré. Si les Israélites livraient leurs enfants au faux dieu Moloch, ils se rendraient coupables de souiller son sanctuaire et de profaner son saint nom. L'honneur et la sainteté de son nom étaient au cœur de ce que les parents faisaient avec leurs enfants. Dans ces cas extrêmes et abominables où des parents israélites idolâtres iraient jusqu'à passer au feu leurs enfants en sacrifice, la punition qui leur était réservée était la mort. D'autre part, dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il est ordonné aux pères d'élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, ce qui renvoie aux commandements retrouvés dans le livre de la loi en Deutéronome, mais aussi à toutes les injonctions de la Bible. Lorsque la parole parle du devoir des pères, il devrait être évident que les mères sont de pères implicitement visées. Proverbes 1, 8 et 9 de dire « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Pour ce faire, les parents doivent non seulement instruire leurs enfants selon le Seigneur, en s'efforçant à leur donner une éducation chrétienne la plus robuste que possible, en les protégeant du Moloch moderne, le faux Dieu qu'est l'État laïque, séculier, qui subventionne le meurtre des enfants à naître et corrompt les enfants nés par son système d'éducation antichrist et perverti. Mais les parents doivent également eux-mêmes vivre au quotidien de manière digne d'un enfant de Dieu. Tout comme l'Église porte le nom de l'Éternel, chaque parent, chaque individu qui professe la foi chrétienne porte en permanence le nom de l'Éternel. Sa marque est sur nous, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Selon les études de J.A. Motier, un expert de l'Ancien Testament, la doctrine biblique du nom se résume en trois affirmations. Premièrement, le nom de quelqu'un est la personne elle-même. Nous le savons tous naturellement. C'est tellement vrai que lorsqu'on te demande qui tu es, que réponds-tu ? Ton nom. En second lieu, le nom est la personne révélée. Dans notre cas, pour Dieu, Son nom est tout ce qu'il révèle de lui-même dans sa parole. Qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Tous les trois unis depuis l'éternité passée et pour l'éternité à venir. Un seul Dieu, trois personnes distinctes. Juge, législateur et roi. Juge, législateur, roi et sauveur. Pardonnez-moi. Enfin, le nom est la personne activement présente. En d'autres mots, invoquer le nom de Dieu équivaut à invoquer sa présence. Et même lorsque nous ne prononçons pas son nom en tant que chrétien, nous portons continuellement son nom, comme je l'ai mentionné tantôt, puisqu'il nous habite et nous a scellés par son esprit. Donc nous devrions toujours être conscients de sa proximité, de sa présence, conscients qu'il est toujours avec nous. Pourquoi ? Il l'a révélé, bien-aimé. Parce que son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En 2 Samuel 12, où Nathan, le prophète, confronte le roi David avec ses péchés, on a une parfaite illustration de ce que j'ai tenté d'expliquer plus tôt, lorsque le nom de Dieu est pris en vain et souillé devant les hommes par nos actions. Dans les versets 9 à 14, nous lisons « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. » Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. L'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Même le roi David n'a pas été épargné, car en ce qui a trait à sa justice, Dieu ne fait exception de personne. Aucune place pour du favoritisme dans la justice et l'équité qui sont la base du trône de l'Éternel. Le nom de l'Éternel ne peut pas être traîné dans la boue par nous qui sommes ses ambassadeurs. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nos enfants, épouses et autres membres de notre famille peuvent subir les conséquences qui se rattachent au fait que nous prenions à la légère le saint nom de l'Éternel que nous portons en méprisant sa parole et en péchant contre lui. Lorsque nous faisons cela, les ennemis de l'Éternel insultent, se moquent et blasphèment le nom de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas laisser cela impuni. Il punira les méchants, certes, mais il va aussi nous châtier. Il n'y manquera point. Mais pire encore, nous devenons une occasion de chute, de scandale pour les enfants, les faibles et même ceux qui sont forts dans la foi. David reconnaît très bien cela dans le psaume 69, au verset 6 et 7, lorsqu'il s'écrit « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. » Écoutez bien la suite. « Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, à cause de moi. » Car tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit à ses disciples de faire briller leur lumière par leurs œuvres, par le bien qu'ils font, afin que les hommes qui en sont témoins attribuent la gloire à Dieu le Père qui est dans les cieux? Parce que les disciples portaient le nom de l'Éternel en tant qu'ambassadeurs. Nous aussi sommes des disciples de Jésus-Christ et nous portons le nom de l'Éternel. Donc, le bien que nous faisons attribue la gloire à Dieu le Père qui est dans les cieux, mais le mal que nous faisons attribue la honte au nom de Dieu, à sa réputation et porte un faux témoignage contre lui. Le 9e commandement nous dit « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. » Tandis que le 3e commandement, formulé autrement, dit « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre l'Éternel, ton Dieu. » Le monde nous regarde, mais nos frères et nos sœurs en Christ et nos enfants nous regardent aussi. Que nous soyons dans le domaine de la santé, de l'ingénierie, le domaine pharmaceutique, la santé publique, le domaine financier, l'entretien ménager, la restauration, la construction, l'entrepreneuriat, femmes au foyer, soit donc que nous mangions, que nous buvions ou fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Soyons-en conscients, bien-aimés. Aucune sphère de nos vies n'est épargnée. Aucun moment de nos journées n'est épargné. Aucune pensée traversant notre esprit n'est épargnée. Aucune parole prononcée par nos lèvres n'est épargnée. Aucun geste posé par nos mains n'est épargné. Aucun recoin secret de notre cœur n'est épargné. Voilà la pleine profondeur du 3e commandement chrétien. Ce n'est pas sans raison que la parole nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Être un enfant de Dieu nous appelle à d'énormes et de très sérieuses responsabilités qui ont des répercussions éternelles. Mais face à l'immense ampleur, le poids insupportable de tout cela, cette cible inatteignable pour nous, soyons honnêtes, grâce au glorieux évangile de Dieu, nous ne devons pas être intimidés. En Jésus-Christ, son Fils, à nous, l'Éternel, le Père, s'est réellement révélé. Ce Fils qui existait depuis l'éternité passée, en parfaite communion avec lui, il nous l'a envoyé. Il est venu, il a parfaitement traversé le chemin, afin qu'il nous soit tout tracé. En Christ Jésus, à la croix, nous tous, qui nous sommes détournés de la vie caractérisée par le péché, l'Éternel nous a pardonnés pour nous accompagner, nous consoler, continuellement renouveler notre capacité et notre volonté. L'Éternel, notre Père, nous a envoyés avec son Fils. Le Père et le Fils nous ont envoyés et nous ont animés de l'Esprit de vérité. Et tout cela afin que nous puissions marcher dans les œuvres que, pour nous, il a d'avance préparées. Pour nous qui menons une vie caractérisée par la repentance. Pour nous qui croyons que par la foi en Christ seul, nous pouvons être sauvés. Pour nous qui vivons en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, qui vivons son évangile au quotidien et vivons pour que cet évangile soit partout proclamé. Pour nous qui faisons partie de cela, soyons dans la joie, soyons rassurés, soyons encouragés. Le fardeau de Christ est léger. Mais pour les autres, Les membres de nos familles respectives, nos amis, nos proches, nos connaissances, les âmes encore captives, nous sommes attristés. Et dans nos fonctions d'ambassadeurs des cieux, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu pendant qu'il en est encore temps. Quant à nous, saints de Dieu, nous qui avons reçu son pardon, ne méprisons pas le saint nom de l'Éternel, notre Dieu. Ne prenons pas le saint nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain, en pensée, en parole, en action, ou même en inaction. Ayons foi en lui, en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances, parce qu'il est réellement celui qui est venu. Il est réellement celui qui nous a révélé être dans sa sainte parole. Il l'a toujours été, il l'est continuellement, et il le sera pour l'éternité. Qui est donc l'Éternel? Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Rapha, l'Éternel, notre guérisseur. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Jéhovah Raha, l'Éternel, notre berger. Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière, notre victoire. Jéhovah Shammah, l'Éternel, présent. Grand et redoutable, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, voilà son saint nom. Amen. Amen.